93. Voici Luc Lavoie.
C'est censé être l'hymne national du Japon, Luc Lavoie.
Et voilà, et voilà.
Le reconnais-tu?
Oui, l'empire du soleil levant. Je le reconnais pas, non, Myriam, je le reconnais pas. Ben oui, c'est un grand jour aujourd'hui. Pour la première fois depuis 300 ans, il y a un empereur du Japon, Naruhito, qui abdique. Il a abdiqué officiellement aujourd'hui. Et c'est son fils qui va le remplacer. C'est une monarchie, c'est la plus vieille monarchie au monde.
Ça fait quoi un empereur au Japon? C'est-tu comme notre gouverneur général, une potiche de luxe?
Ben tu vois, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'empereur n'était pas au pouvoir dans le sens qu'il ne commandait pas les armées, tout ça, mais il avait un pouvoir direct très important. Et quand les Japonais ont perdu la guerre, ce sont les États-Unis, en l'occurrence le général Douglas MacArthur, qui a réécrit la Constitution du Japon pour réduire le rôle de l'empereur à celui de symbole de la nation et de l'État. Ça avait été un coup assez audacieux de la part de MacArthur, parce que MacArthur était à la tête des forces d'occupation au lendemain d'une guerre qui avait été affreuse et qui s'était terminée par deux bombes atomiques sur Nagasaki et sur Hiroshima. Alors, il avait décidé de ne pas... Parce que Hirohito, le père de celui de Akihito qui a démissionné, qui a abdiqué aujourd'hui, s'était montré un leader de guerre, habillé avec des uniformes militaires et tout. On s'attendait à ce qu'on lui fasse un procès de type Nuremberg pour crime de guerre. Et MacArthur a compris que s'il voulait continuer à régner d'une façon pacifique sur le Japon au nom des troupes américaines, il avait besoin de sauvegarder ce symbole de la nation, autrement, ça aurait été une catastrophe. Ah. Alors moi, si je vous en parle aujourd'hui, Myriam, c'est qu'en 1990, alors qu'il venait de monter sur le trône de Chrysanthème, comme on l'appelle, Akihito nous avait reçus, j'étais avec le premier ministre Mulroney, pour un repas du midi au palais impérial. Et c'était relativement intime, en ce sens qu'il y avait 24 personnes, dont l'empereur et l'impératrice. Et il y avait nous. Écoute, c'est une scène que j'oublierai jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Ouais. C'était vraiment incroyable. T'arrives dans cet endroit, le palais impérial, tout est d'une espèce d'extrême minimalisme. Tu sais, c'est le jeu des espaces et tout. Et là, on nous sert un apéro. Et je me souviens très bien que c'est parce qu'au Japon, j'ai appris ça pendant j'ai été très souvent au Japon, c'est que quand ils reçoivent au palais impérial, il y a deux types de façons de recevoir, soit très japonais, soit très occidental. Parce qu'il faut savoir que les Japonais, à partir de 1868, quand ils ont décidé de se moderniser, ils se sont mis à copier ce qui avait fait le succès des grandes démocraties occidentales ou des grands pays industrialisés. Et ils avaient choisi, par exemple, il y a des trucs qui font encore aujourd'hui, qui viennent directement de l'aristocratie britannique, mais en même temps, ils avaient adopté la cuisine de référence, c'était la cuisine française, et les Japonais étant des minutieux, ils avaient copié la cuisine française dans ses moindres détails, les vins, tout ça. Alors, on arrivait pour l'apéro, et je me souviens qu'il y avait des grands plateaux sur lesquels il y avait des bouteilles, d'alcool, du whisky, ceci, cela. Toutes les bouteilles étaient flambant neuves, OK? Je sais pas pourquoi, là. Toutes les bouteilles n'avaient jamais été ouvertes. En tout cas, peu importe, on nous fait entrer dans la salle à manger. Imagine une salle à manger tout en long, avec donc de la place pour 24 personnes, 12 chaque côté de la table. Et il y avait un des quatre murs que c'était en fait vitré de haut en bas, à 100%. Oui. Ça faisait comme un rectangle, et derrière ce rectangle de vitre se trouvait un jardin japonais d'une beauté comme j'en ai jamais vu. Ça donnait l'impression d'un tableau, tellement c'était d'une beauté et d'une perfection. Et là, on s'assoit pour le repas, et à un moment donné, pour le premier service, il y a comme une espèce de maître d'hôtel qui claque deux fois avec les mains. Ça fait toc-toc, les portes s'ouvrent. Et là, vu qu'il y a 24 personnes, il sort 24 serveurs avec de l'argenterie, tout ça, ils sont en queue de pie. Ils viennent déposer ton plat devant toi, et là, ils s'installent derrière chacun d'entre nous, puis à un moment donné, il y a un autre tac qui est donné comme ça, et une autre claque dans les mains. Et les plateaux déposent et ils font un seul coup. Tu vois que ça a été entraîné. T'entends pas là, des plateaux qui se déposent toc, 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 toc. Non, ça arrive en même temps. Poum! Puis au même moment, au bout de la pièce, à l'autre bout, il y a comme un séparateur japonais en papier de riz.
Oui, oui.
Et on entend une musique, c'était du Mozart, je m'en souviens très bien, qui arrive de derrière ce papier de riz. Puis là, c'est une sonorité absolument incroyable. Et moi, il se trouve que pendant le repas, je suis assis à côté de celui qu'on appelle le grand chambellan. C'est comme le grand chef d'orchestre, le grand chef de cabinet de l'empereur. C'était un diplomate japonais qui avait abouti à ce poste-là et qui avait été en poste à Paris, donc qui parlait parfaitement français. Et il m'avait raconté que là, il y avait des gros maux de tête parce que l'impératrice ne donnait pas d'héritier mâle à la lignée des empereurs, et que là, il fallait qu'il lui trouve une femme dans les plus brefs délais. Puis je lui disais, mais lui, est-ce qu'il n'y a pas des fréquentations? Tu sais, il disait, lui, il n'y a rien à voir dans ça. C'est vraiment une atmosphère là, complètement... Bon, là, à un moment donné, on finit notre premier plat.
T'es au Moyen-Âge, puis en même temps, t'es au 22e siècle en termes de décoration.
Ah, c'était vraiment là... Là, j'entends à nouveau le tac-tac, tu vois, les 24 qui arrivent, qui enlèvent nos plats, puis la musique s'arrête. Là, deuxième service, tac-tac, on voit les gens qui sortent, la musique recommence. Et là, moi, je me dis, mais qui sont les musiciens, qui sont-ils? Et j'apprends qu'à la cour impériale du Japon réside une caste de musiciens qui sont là depuis des siècles et des siècles et des siècles, et qui ont des enfants, et qui, les enfants, deviennent les autres musiciens. Pis ces musiciens-là sont les musiciens de la cour.
Ils sont musiciens pour la cour de père en fils. Ou de père,
de
en,
père
fils.
En fils. Oui, de père en fils et en fille, remontant à des siècles et des siècles et des siècles. Et jamais on les voit. Ils sont toujours cachés comme ça. Mais la sonorité qui sort est à cause en partie du séparateur. Il y a quelque chose comme un son... comment dire, chaleureux. Il y a quelque chose qu'on n'entend pas d'habitude. Et là, évidemment, j'avais essayé de faire la conversation avec l'empereur, qui était... Et ça, c'est tout un changement, parce que jusqu'à Hirohito, l'empereur de la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait pas regarder un empereur dans les yeux, parce qu'on disait qu'il pouvait nous rendre aveugles. Alors, il fallait toujours regarder ailleurs. Mais Akihito a abandonné cette pratique-là, ce qui a fait fâché bien des conservateurs nationalistes japonais. Et donc, j'avais lu qu'il avait fréquenté pendant un temps ou qu'il avait reçu des précepteurs de lycée français. Donc, je me disais, il doit parler un peu français, ainsi que sa femme. Alors, je m'étais retrouvé avec les deux et j'avais commencé à leur parler en français. Tu voyais que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas parlé. Mais l'empereur savait très bien ce que je disais, puis il me répondait dans un français assez limité, mais néanmoins très compréhensible. Et là, quand le repas est fini, après cette espèce de son, c'était une espèce de plaisir des sens incroyable que seule la culture asiatique, particulièrement la japonaise, peut procurer, une sorte d'intériorité, d'introspection. On a quelque chose dans cet environnement-là qui nous rend... plus paisible. Et dans mon cas, comme tu sais, c'est très, très bon, quelque chose qui peut me rendre plus paisible. Alors, encore une fois, pour le digestif, les plateaux qui apparaissent, les serveurs, je sais pas comment ils étaient formés, eux autres, mais il y avait comme 25 bouteilles flambant neuves de toutes les sortes de cognac et d'armagnac et de calvados que tu pouvais imaginer. Mais toujours cette idée que les bouteilles sont flambant neuves. J'ai jamais compris.
Tu te demandes ce qu'ils font avec les restants. Peut-être que ça pourrait le faire.
J'ai demandé à quelqu'un du service du protocole japonais qu'est-ce qui arrive avec les bouteilles. Ah, ils disent, on le sait pas, mais à chaque fois, c'est toujours des bouteilles neuves. C'est une façon pour les Japonais de rendre hommage aux visiteurs. Alors là, il va avoir un nouvel empereur qui n'a pas de fils mâle. Donc, ce serait son neveu qui serait son successeur.
Parce que ça peut pas être une fille.
Ça peut pas être une fille à l'heure actuelle. Ils ont songé à adopter une loi pour changer cela, mais le conservatisme japonais, quand ça vient à l'empereur... Tu sais, les Japonais, c'est comme si c'était un peuple. Moi, j'y étais beaucoup au Japon. Ils ont avalé tout ce que l'Occident avait à offrir. Ils l'ont copié. Si tu en vas dans Tokyo la première fois, tu as l'impression, à part du fait qu'il y a des idéogrammes comme caractère, là, à part de ça, tu as l'impression d'être dans une ville nord-américaine.
C'est le festival du selfie. Ils ont tous les appareils électroniques modernes, ouais, etc.
Mais en même temps, c'est une culture qui a absorbé tout ce que l'Occident avait à offrir, mais n'a jamais été assimilé. Ils l'ont mis à leur sauce. Les relations au Japon, comment la culture japonaise doit se comprendre à travers les relations interpersonnelles. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Ils peuvent importer n'importe quoi de n'importe où. Il n'y a jamais rien qui change dans le protocole japonais. C'est constamment immuable. Et à l'heure actuelle, le Japon traverse une période extrêmement difficile. On se souvient tous de ce qu'on appelait le miracle japonais à partir des années 70, puis même aux années 90. Tout le monde essayait de copier le modèle japonais jusqu'à temps que le modèle japonais rentre dans le mur. Pourquoi est-il rentré dans le mur? Population vieillissante, probablement la population sur le plan démographique la plus vieille au monde. Refus d'accepter des immigrants systématiquement. Par exemple, il y a des Coréens qui, lorsque le Japon a occupé la Corée pendant longtemps, avaient été amenés comme des espèces de travailleurs forcés, une sorte d'esclavage, et qui se sont installés au Japon, et qui sont là depuis les années 20, les années 30, et qui vivent dans un quartier isolé, et qui n'ont jamais, même les enfants nés sur le territoire, n'ont jamais reçu la nationalité japonaise.
Ah, ouais. C'est difficile, avoir la nationalité japonaise.
C'est presque impossible. Impossible. Et ça, c'est le côté le plus négatif dont je me souviens du Japon.
Entre cet extrémisme-là puis le fait de vendre notre citoyenneté comme une police d'assurance, là, il y a comme une nuance qu'on pourrait faire. On pourrait se trouver quelque part entre les deux.
Mais ben, on peut pas se rapprocher du modèle japonais parce que c'est un modèle qui est très ouvertement raciste. Ok, ils t'en font pas de secret, aucun secret. Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais allé voir les usines de Mazda dans le coin justement d'Hiroshima et le vice-président exécutif pour les affaires mondiales était un Japonais qui était né aux États-Unis, donc qui parlait parfaitement l'anglais, mais qui était retourné vivre au Japon quand il y avait une vingtaine d'années. Alors c'était facile pour moi de converser avec lui. Et on avait parlé de l'industrie automobile, puis du fait qu'il y avait peut-être du dumping japonais, ce dont on les accusait à l'époque. Et écoute, le gars m'avait fait sur un ton très très froid. Il avait dit, arrêtez de vous raconter des histoires. Notre industrie est meilleure que la vôtre parce qu'on n'est pas une bande de paresseux comme les Occidentaux. Et monsieur, je veux dire... Ou alors, j'étais à Kyoto, je rentre dans un restaurant certainement pas fréquenté par des touristes, de volontaires de ma part. J'avance, puis il y a à peu près 3-4 familles qui sont là, il n'y avait pas grand monde. Et tout de suite, le mot qu'on utilise pour dire un étranger, puis d'une façon très péjorative, c'est « gaijin ».
Oui.
Alors moi, je suis entré, j'étais seul, puis je les ai entendus, puis les enfants riaient, puis les parents riaient, puis ils disaient « gaijin, gaijin », puis ils me montraient du doigt. Alors, il y a quelque chose de malade au pays du Japon. À l'heure actuelle, ils ont une récession qui en finit plus de finir. Ils ont des croissances anémiques du genre 0,5% du PIB. Ils sont en train de perdre le marché de l'automobile. Pas de le perdre, mais d'en perdre un solide morceau aux mains des Coréens, aux mains des Malaisiens. Alors, le Japon vit une période difficile. Je sais pas s'il va jamais s'en relever. On voit pas comment ils vont s'en relever. Ils sont isolés, ils vivent sur des îles. Ils laissent pas les étrangers s'y installer. La population, encore une fois, vieillissante. Je sais pas où ça va aboutir, tout ça. Mais moi, j'ai toujours été fasciné par le Japon, alors je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de connaître un peu de cette histoire.
Et tu sais, quand tu dis qu'ils sont plus vaillants, enfin qu'ils se vantent d'être plus vaillants que les Occidentaux, rien qu'à l'école, là, en Occident, c'est à peu près 198 jours de classe.
Oui.
En Amérique du Nord, on est autour de 180, puis je te dirais qu'au Québec, on est plus autour de 170 si tu comptes tous les congés.
Oui.
Au Japon, c'est 220.
Oui. L'éducation là-bas, c'est fondamental.
Toute journée ouvrable est un jour d'école, point à la ligne.
C'est ça. Et si tu veux être un haut dirigeant d'une entreprise ou dans un ministère, il faut que tu passes par l'Université impériale de Tokyo. Alors, les examens d'admission à l'Université impériale de Tokyo, Ce sont des gens là, qui en font des dépressions nerveuses. Il y a des suicides qui suivent. Si tu rentres pas à l'Université impériale de Tokyo, tu es condamné à la classe moyenne. Puis la classe moyenne, là-bas, ils sont plutôt riches maintenant, mais dans des maisons miniatures comparées à nos habitudes à nous, avec des... Évidemment, il y a 140, 130 millions d'habitants au Japon, et ils sont tous concentrés dans des grandes villes comme Osaka, Tokyo, Kyoto, tout ça. Et la majeure partie du territoire est très montagneux, donc n'est pas habité. Ça fait quoi? Ça fait qu'il y a des foules, mais des foules incroyables. Quand tu arrives pour prendre le métro à l'heure de pointe, là, tu as des policiers avec des gants blancs qui tiennent des espèces de longs morceaux de bois avec des poignées derrière. Puis quand arrive le moment de fermer les portes des wagons, ils poussent comme des sardines, là, pour que tu rentres jusqu'au dernier, puis clac, la porte ferme, t'es pris dans ça. T'as besoin de pas être claustrophobe ou agoraphobe, je te jure que c'est pas une expérience très, très joyeuse.
Il paraît que c'est d'ailleurs le manque d'espace qui explique qu'on ait eu à un moment donné sur le marché, on les a vus arriver sur le marché nord-américain aussi, des véhicules comme le Cube de Nissan ou la Soul de Kia, c'est que c'est la chambre des adolescents. Les jeunes partageant la maison de leurs parents jusqu'à ce qu'ils se marient, pour avoir un lieu à eux, ils ont ces véhicules carrés qui deviennent leur chambre, l'endroit où ils reçoivent leur chum, etc.
Puis il y a les micro-hôtels à Tokyo aussi. C'est littéralement, c'est comme une... Ça ressemble à un cercueil. Tu rentres là-dedans, c'est super bien fait. Il y a un téléviseur, il y a tout, mais tu sais, t'as juste de la place pour te coucher, puis peut-être 3-4 pieds au-dessus de ta tête. Tu regardes la télé au fond.
En masse, 3-4 au-dessus de ma tête.
Pourvu qu'on n'ait pas un par-dessus l'autre. C'est ça l'affaire, on manque de place.
Merci beaucoup, Luc Lavoie. À demain.
Arigato.
Sayonara, ça veut dire
Merci.
Quoi, ça?
Sayonara, c'est au revoir.
Au revoir.
Sayonara.
Sayonara. Bye.
Bye.